Alors, c'est votre journée chanceuse. C'est l'émission Tam Tam Canada, vendredi 13. Beau soleil sur la capitale économique du Québec en ce moment. Les collègues sont là, hein? On va saluer. Sur ces belles images de Radio-Canada, filmées par Radio-Canada, nous allons maintenant vous montrer ces images de Radio-Canada International en direct de notre studio 38. Ouh. C'est le studio 26, je pense.
Hein? C'est le 26.
Il y en a tellement.
Mais c'est ce vendredi 13.
C'est un vendredi 13. Écoutez, vous savez, la tradition, vous n'avez pas d'idée du sujet d'émission.
Aucune idée.
Vous avez eu vent de la présence de notre prochain invité. Mm-hmm. Vous connaissez sans doute son nom. Vous avez peut-être lu des choses à son sujet récemment. Mais vous ne connaîtrez pas le sujet de l'émission, je vous le promets. Mais pourtant, je vais vous mettre au défi. Vous allez tenter de me faire mentir. Je vais vous proposer la vidéo numéro 5 images. 5 images pour que vous nous disiez c'est quoi le sujet cette semaine de l'émission avec lequel on va devoir se débattre et débattre.
Cool.
Okay. D'accord, on regarde ça ensemble. Puis j'ai peut-être une surprise dans cette vidéo. Ouais, oh. Parce que je suis sûr que vous n'aurez pas le
bouquin. Une bonne surprise.
Toujours, bon, à cette émission.
Le Parlement du Québec.
C'est ça. On ne va rien vous cacher.
L'Assemblée nationale.
Des manifestations.
Ouais.
Où il y a des couvre-chefs.
Cool.
Ben, ça, c'est la fameuse loi 21.
Vous pensez? Probablement. Okay. Le 21, moi, OK, peut-être, on ne sait pas.
Ça doit être ça. Là. Ben, bon, 21, on va réussir. La loi 21 sur la laïcité.
Laïcité,
donc, des
d'accord.
Gens qui probablement manifestent contre.
Ben, ça a l'air d'être ça, oui. Oui,
hein?
Ouais, ça, c'était cet
c'est
été.
C'est ce qu'il y a dans ma tête, pas sur ma tête.
Voilà. J'ai ajouté des images parce que je suis sûr que vous n'allez pas connaître le sujet de la semaine.
La jolie fille, c'est qui a déménagé.
C'est dans les cours de justice. Le premier ministre du Québec.
Le ministre Alain Barrette.
Oui,
ministre
Alain Barrette. Rachida Azdouz.
Voilà. Alors, quand vous mettez tout ça, 21, Rachida Azdouz, et voici le sujet de l'émission.
Le livre.
Le livre, voilà. Parce que Rachida, elle est spécialiste des relations interculturelles. Mm-hmm. Elle a une belle façon de présenter les choses sans faire la critique de tout le monde ou beaucoup de gens. Elle propose à tous des arguments pour discuter un peu plus de ce qui leur apparaît être injuste dans une société pour qu'on apprenne à mieux vivre ensemble. Je pense que c'est la façon la plus neutre que je pourrais présenter cette affaire. Et je sais qu'autour du projet de loi 21, il y aura des points de vue divergents ici autour de la table. J'en
Comment
suis conscient.
Ça, vous savez ça à l'avance?
Parce que je vous ai parlé en privé à un moment donné, il y a une couple de mois. Et on va exposer donc ce qui nous traverse, ce qui nous divise et ce qui pourrait nous rassembler aujourd'hui. D'accord?
Parfait.
D'accord. Mais vous étiez tous sur la bonne piste, je dois l'admettre. D'accord? Mais grâce à Rachida, on va pouvoir avoir une bonne réflexion, dépasser les réflexions populistes là, qui vont trop loin trop rapidement, peut-être.
Absolument.
D'accord?
J'aime bien le titre qui utilise une expression très typique du Québec.
Du Québec, oui.
Pas de chicane dans cabane. C'est bon.
Puis il faut dire que ce n'est pas encore disponible en librairie.
Nous, on est chanceux.
On
mais
est
c'est ça.
Toujours la primeur, nous, on l'a. Hein? Ce sera disponible seulement le 18 septembre. Non pas le 18 octobre, mais le 18 septembre. Aujourd'hui, on est le 13 octobre. Alors, c'est bon.
Septembre.
C'est ce que j'ai dit.
C'est drôle. C'est drôle, mais il y a un souvenir qui me revient en tête avec ce titre. Pas de chicane dans ma cabane par rapport à la bonne femme.
Ah
oui? Oui, je ne sais pas pourquoi, ça me revient, mais c'est une expression très québécoise.
Il y a aussi l'autre qui était...
Pas de cochon dans mon salon.
C'est ça.
Excusez-moi, là...
Ben, c'est
la classique, c'est ça.
Ouais.
Bon. Alors, je sens que c'est un livre qui va résonner de par
Beaucoup
son titre.
De résonance,
et
ouais.
On l'espère de par son contenu. Je vais dire le mot magique et on va voir ce qui va se produire en studio. Action! Ça produit rien? Action!
C'était moi qui devais faire quelque chose.
Ben, c'est pas grave.
J'ai failli me mettre à danser, mais c'était pas la bonne action. Okay.
Il y aura d'autres répétitions au cours de l'émission. Alors, c'est le premier tour de la grosse boule. Vous rappelez le règlement. 100 boules à perdre par émission. Des petites boules, mais ça devient des grosses boules pour certains. 20 boules à perdre pour ce premier jeu. On affiche la question du premier tour de boule. Et voici. Quel pourcentage, selon vous, des néo-canadiens, donc ceux qui sont arrivés au Canada depuis 10 ans et plus, approuve la manière de légiférer la marijuana de Justin Trudeau? Je vous pose cette question-là, puisque le dossier des tolérances, des intolérances, tout ça, est rebondi dans la campagne électorale actuellement, la campagne électorale fédérale. Et on dit que les néo-canadiens, qui des fois portent des turbans, des foulards, tout ça, qu'est-ce qu'ils pensent de Justin Trudeau et de son message à l'égalité, la justice et le retour du Canada sur la scène internationale? Est-ce qu'ils approuvent plus que les autres Canadiens? C'est le fond de la question. Alors, quel pourcentage des néo-canadiens approuvent la manière de légaliser, par exemple, la marijuana de Justin Trudeau? Est-ce que c'est 35 % 49 % ou 58 % sur une valeur comme celle-là? Qu'est-ce qu'ils disent dans leur approbation, désapprobation?
Moi, je dirais 58.
58 approuve.
Approuve. Ils sont en accord avec la façon dont Justin Trudeau procède dans le dossier sur la marijuana.
D'accord. Voilà. Raymond, Marie.
35.
35 %. Donc, eux, ils voient ça, ils sont moins... plus conservateurs, peut-être, c'est ça? Ou...
plus réservé, disons.
Ah, tiens, intéressant, comme j'aime beaucoup le mot. Maryse.
Ben, moi, j'hésite entre 35 et 49 parce que je me demande, est-ce qu'on parle des néo-canadiens dans le reste du Canada ou au Québec? Parce qu'on sait qu'au Québec,
Canada,
la légalisation était plus populaire que dans le reste du Canada. Je vais aller avec 49 pour faire différent.
49.
Mais la question, c'est pas savoir s'ils sont d'accord avec la légalisation, non. C'est la question comment...
La manière
avec
laquelle il a légalisé l'affaire jusqu'à maintenant. Alors, voici la réponse. On fait apparaître la bonne réponse. Alors, je pense que Maryse va conserver ses Maryse. Boules. Fantastique. Et puis les autres, vous perdez 20 boules. Voilà.
Okay.
Ça vous va? Je vous présente, avant de vous présenter notre invité, je vous présente notre vidéo numéro 2. Ça va vous rappeler de bons souvenirs. Et vous allez me dire, écoutez, pour 5 boules de plus, tiens. À quel moment est-ce qu'on a filmé ces images à Tam Tam Canada? C'était par rapport à... C'était l'an dernier, au mois de septembre, alors qu'il y avait des élections au Québec. Et il a été beaucoup question des immigrants, de leur rôle, de leur place. Puis le parti qui finalement a remporté le pouvoir voulait limiter leur nombre énormément. Il a changé d'idée depuis. Je vous montre ces images et vous allez me dire... je vais donner la réponse. À quel moment on a filmé ça?
Ben là, c'est difficile à dire parce que...
Ben là, c'est le début de l'émission, alors...
OK.
C'était plus loin que qu'on devait vous présenter, mais de façon générale, ça vous rappelle des vieux souvenirs, anciens studios...
Oui, tout à fait. Donc, on parle des élections provinciales, c'est ça, hein?
Ouais. Alors, quel moment de l'année, l'an dernier?
Fin septembre, début octobre, à peu près.
Fin septembre, début
octobre. Moi, j'avais une chemise à manches longues, donc...
Le plus proche de la bonne réponse gagne 5 boules. Allez.
Élection. Quand est-ce que le gouvernement Legault a été élu? C'est ça la question. Pourtant, je suis allée voter. Il me semble que c'était à l'automne.
Okay.
C'était à l'automne. Oublie, est-ce que c'était en octobre
c'était
ou en novembre?
C'était en septembre. Je vais essayer septembre. Tiens.
Septembre, OK. Lui, il a dit septembre-octobre.
Moi, je vais dire 13 novembre. Non, non, 13. Non, parce que c'était...
À quelle heure, c'est
non,
ça?
Non, ouais, non, non. Je vais dire 13 octobre.
19 septembre, bonne réponse, okay. Marie. 5 boules de plus. Vous êtes à 105 boules. 105 boules. Incroyable, ça s'est jamais vu.
Oui, mais ça se perd rapidement, hein, avec les prochaines questions, alors.
C'est ça.
Il ne faut pas trop s'énerver.
Êtes-vous prêts? Là, on va s'énerver, d'accord? Oui. Rachida Azdouz, psychologue et spécialiste des relations interculturelles, est avec nous. Et la voici, la voilà. Rachida, c'est un plaisir de vous réinviter pour la troisième fois à notre émission, en un peu plus d'un an et demi.
C'est un plaisir d'être avec vous. Bonjour.
La première fois qu'on vous a invité, c'était lors de la publication d'un livre. Je pense que c'était votre tout dernier, avant celui de La cabane. Est-ce que vous vous souvenez du titre? Moi, je ne m'en souviens plus, mais c'était aussi très joli.
C'était un beau titre, je me souviens aussi. Puis je me souviens que c'est Léo qui avait gagné la copie de son livre. Excusez-moi,
on continue. Il y avait une copie à... On a fait un tirage.
Oui.
C'était quel est le titre de ce livre que vous aviez écrit à ce moment-là, environ un an et demi?
Oui, alors c'était « Le vivre ensemble n'est pas un rince bouchon ».
Voilà. Mmh.
Très joli. Hein?
Oui.
Alors là, vous publiez un nouveau livre. J'imagine que vous avez pris... vous avez fait plein d'informations depuis les derniers mois, depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement, qui a su faire adopter à l'Assemblée nationale du Québec une idée, une loi, qui finalement était dans les cartes lors du gouvernement du Parti québécois. Et n'a pas eu de grand débat au Québec, comme il y en avait connu il y a 4 ou 5 ans, lorsque le Parti québécois avait dit « Ben écoutez, les gens qui sont en autorité, qui ont des signes religieux en société, il faudrait interdire ça. » Cette fois-ci, c'est passé, pas comme une lettre à la poste, mais les sondages disent 5 Québécois sur 6 sont d'accord avec cette loi, qui est unique. Et il y a protestation en cours actuellement devant les cours fédérales, parce que ça violerait la Charte canadienne des droits et libertés. Est-ce que votre livre parle de ça ou nous donne des éléments de réflexion par rapport à ce qui se produit actuellement au Québec?
Oui, alors juste rapidement, mon livre parle de 3 controverses. L'idée, c'est que le livre commence à l'été 2018 et il se termine à l'été 2019. Donc, je fais une espèce de tour de l'horloge d'une année, de l'été à l'été, à travers 3 controverses. La controverse autour de la laïcité, bien entendu, et du projet de loi, mais aussi la controverse sur l'appropriation culturelle, qui a aussi marqué toute l'année avec l'été 2018, cela avec Anata, Et une troisième controverse qui a beaucoup aussi fait couler d'encre cette année, c'est-à-dire le retour de l'éducation à la sexualité à l'école et comment aborder la sexualité et quelle place accorder, entre autres, aux minorités sexuelles et à la question LGBT, trans, la fluidité sexuelle, etc. Donc, c'est vraiment un livre sur les trois controverses, mais en une année, été 2018, été 2019.
Alors, écoutez, ça promet parce que vous pourriez écrire un livre à chaque année. Là, il se passe tellement de choses. Mais la question de l'enseignement de la sexualité, effectivement, ça traîne depuis des années. Hein. C'est depuis 2004. 2004, je pense qu'il y a des gros débats de fond là-dessus, que la chose n'avance pas beaucoup. Maryse?
Oui, je me demandais, parce que là, on parle peut-être d'inclure l'enseignement de la sexualité dans le cours d'éthique et culture religieuse. Est-ce que vous, vous avez eu dans votre livre un aperçu de ce que ça pourrait créer, peut-être comme tension, ou peut-être que ça serait bénéfique?
Non, en fait, c'était, cette proposition est arrivée, mon livre était déjà à l'impression, mais dans le livre, j'aborde la question de comment l'aborder dans le fond le cours et quels éléments de contenu y mettre. Et c'est un hasard, mais j'ai fait un parallèle avec éthique et culture religieuse. Donc, les critiques qui sont adressées au cours sur la sexualité s'appuient beaucoup sur les critiques qui ont, dans le fond, les gens qui se méfient de ce cours utilisent beaucoup le cours d'éthique et culture religieuse pour justifier leur méfiance. Ils disent, justement, on nous avait dit ça aussi sur éthique et culture religieuse, et finalement, le cours n'a plus rien à voir avec ce qui a été annoncé. Donc, comment vous pouvez nous assurer qu'il n'y aura pas les mêmes dérapages et les mêmes dérives ? Maintenant, quant à l'idée d'inscrire la sexualité dans le cours d'éthique et culture religieuse, ce n'est pas une très bonne idée, parce que le cours d'éthique et culture religieuse ne peut pas être un fourre-tout. Déjà qu'il y a des questions sur le fait de mettre l'éthique dans culture religieuse, parce que l'éthique, il y a de la philosophie là-dedans, et il ne faut pas donner l'impression que seules les religions ont le monopole de l'éthique et ont des réponses à nos questionnements éthiques et à nos questions éthiques. Donc, ajouter la sexualité là-dedans, d'abord, c'est faire reposer un fardeau beaucoup trop lourd sur les professeurs d'éthique et culture religieuse, et c'est aussi transformer ce cours en un fourre-tout. Quand on ne sait pas quoi faire avec un contenu, on le met dans éthique et culture religieuse.
Marie-Claude?
D'abord, j'ai deux remarques. D'abord, j'en reviens pas de votre... que vous réussissiez à écrire un livre comme au fur et à mesure où les événements arrivent, parce que finalement, c'est un peu ça que vous avez fait. C'est presque un journal personnel. Ça arrive, vous écrivez sur l'événement, mais vous avez réussi à écrire ça très rapidement. Comment vous expliquez votre processus par rapport à ça?
D'abord, en me taisant beaucoup, vous remarquerez que je ne me suis pas beaucoup prononcée. Je ne me suis pas beaucoup prononcée durant l'année. J'ai prononcé des conférences, bien entendu, et tout, mais je n'ai pas brillé par mon... j'ai pas été surexposée parce que j'écoutais. Donc, en écoutant au fur et à mesure, ça vous permet de vous construire une analyse. Par ailleurs, ces sujets-là sont les sujets de l'année, mais dans les faits, ça fait... plusieurs années qu'on en parle. La laïcité, c'est un sujet qui n'est pas un sujet d'actualité, en fait. Ça fait plus que 10 ans au Québec qu'on en parle. Donc, il y avait quand même une analyse qui était déjà là. Donc, j'ai ajouté la polémique de l'année. La même chose pour l'éducation à la sexualité. Vous savez que c'est un cours qui existait. Déjà, avant la réforme du curriculum de 1998, qui a disparu et qui revient à la faveur dans la foulée du mouvement MeToo. C'est suite au mouvement MeToo qu'on a pris conscience qu'il fallait apprendre à des enfants la notion de consentement, mieux connaître leur corps, etc. Pour l'appropriation culturelle, ça, c'est peut-être le sujet le plus particulier, ce qui explique pourquoi tout le premier chapitre de mon livre, qui peut être long pour des gens qui ont suivi l'actualité, mais qui, pour le commun des mortels qui n'a pas suivi, comprend pas ce qui s'est passé. En juin 2018, il a appris que 2 spectacles avaient été annulés pour appropriation culturelle, et les gens ne comprenaient pas d'où ça venait, tout ça. Il y a des gens qui découvraient même ce concept-là. Mais quand je refais l'historique des événements, ça fait quand même quelques années que la table est mise pour une polémique sur l'appropriation culturelle. Et mon objectif était de refaire l'historique récent. Vous savez, à l'Halloween, depuis quelques années, à chaque Halloween, il y a un incident sur l'appropriation culturelle. Un déguisement maladroit, un blackface, des personnes qui portent des dreadlocks. Donc, oui, je réagis à chaud à des événements et à la controverse de l'année, mais en même temps, je la raccroche à une réflexion et une analyse qui est un peu moins récente. Tout ce que j'ajoute, c'est des éléments très, très ponctuels. Par exemple, à chaque fois qu'il y a un incident, je l'ai ajouté dans ma réflexion, en fait, un incident durant l'année. Mais sinon, mon analyse, elle ne s'appuie pas sur uniquement les éléments récents, mais vraiment sur des événements beaucoup plus anciens.
Rachida, il y a quelque chose qu'on voit venir depuis au moins plus qu'un an, depuis la nomination de Jamit Singh comme leader du nouveau Parti démocratique. C'était il y a 2 ans, si mes souvenirs sont bons. Et on disait à l'époque que les Canadiens n'éliront jamais un premier ministre qui porte un turban. Et on sait que cette polémique, elle est en croissance. Il y a eu des problèmes la semaine dernière au Nouveau-Brunswick à ce sujet-là. On a dit que ça se passait en Acadie, dans la portion française du Nouveau-Brunswick, qu'il y avait une réticence, plus qu'une réticence, une résistance. Il y a aussi eu des échos à Toronto. Le frère de Jamit Singh a été interpellé par un populiste, mais un gars de droite là, qui fait des actes spectaculaires qui sont captés par les médias, reproduits. C'est présentement dans la tête de beaucoup de Canadiens et des électeurs. La tolérance et l'intolérance par rapport aux signes religieux des personnes en autorité. Hein, je pense qu'on est en train de... Ça revient, ça rebondit. Est-ce qu'il y a une différence par rapport à l'attitude des Canadiens français, des Québécois et des Canadiens anglais par rapport à ça? Est-ce que vous en voyez une?
Entre les francophones et les anglophones?
Oui, par rapport à cette notion de signes religieux dans la vie publique.
De signes religieux dans la vie publique. Écoutez, c'est sûr que tous les sondages qui sont sortis récemment, il y a eu beaucoup de sondages sur le degré d'acceptabilité des signes religieux visibles. Dans l'espace public, il y a toujours une petite différence entre le Canada anglais et le Québec, mais la différence n'est pas énorme. Elle n'est pas significative. Elle est là, mais elle n'est pas énorme. Maintenant, pour ce qui est de Jackie Singh, ce qui serait intéressant de voir, c'est est-ce que... Vous savez, il y a eu un raz-de-marée. Je pense que c'est les élections 2015. À l'époque de 2015, il y a eu un raz-de-marée NPD. Si on revenait en 2015 et que c'était lui avec son signe religieux, est-ce qu'il y aurait eu un tel raz-de-marée? On ne peut pas le savoir. Donc aujourd'hui, quelle est la part qu'il faut attribuer au fait qu'il porte un turban et quelle est la part qu'il faut attribuer au fait que tout simplement, ce sont les idées du NPD, c'est comme la vague qui est passée. Je pense qu'il serait prématuré de tout mettre sur le compte de son signe religieux. Autre chose d'important, vous savez, au début de l'émission, vous montriez des images où des gens disaient « l'important, c'est ce que j'ai dans la tête et pas sur la tête ». Et parfois, en voulant contrer les discriminations et en voulant dénoncer le fait que des personnes sont intolérantes envers un signe religieux, on se met à tellement mettre l'accent sur le signe religieux qu'on fait le contraire de ce qu'on... on produit l'effet contraire à celui recherché. On a tellement parlé de ce qu'il a sur la tête que même des gens qui le soutiennent, il y a des gens qui ont peut-être oublié ce qu'il avait dans la tête. Marie. Donc, parfois, le mieux est l'ennemi du bien.
Oui, je me demandais parce que ça m'interpellait un peu lorsque vous parliez de réaction. Moi, j'ai fait un papier sur une équipe québécoise qui joue au Nouveau-Brunswick et dont le lanceur est d'origine sud-américaine et il s'est fait invectiver par des gens au Nouveau-Brunswick. Vous parliez tantôt, Stéphane, du Nouveau-Brunswick. Et il y a des Québécois qui se sont fait insulter parce qu'ils étaient français, et lui s'est fait insulter parce qu'il était d'ailleurs. Alors, ce phénomène-là, on le voit un peu partout au Canada.
Je ne pense pas avoir bien compris. C'est quoi le phénomène?
Le phénomène de ne pas accepter une autre culture.
Oui, absolument, ça existe partout, absolument. Je pense que la différence peut-être au Canada, dans le reste du Canada, c'est peut-être la présence beaucoup plus grande dans des institutions publiques, par exemple. Donc les gens sont plus habitués à voir avoir une différence très visible, surtout une différence religieuse. Mais il ne faut pas confondre la tolérance et l'indifférence. Mm-hmm. C'est pour ça que c'est important d'être très prudent. Ce n'est pas parce qu'on n'invective pas quelqu'un ou qu'on l'accepte et qu'on va l'inviter dans son salon et qu'on va en faire un ami. Il faudrait voir combien de Canadiens dans le reste du Canada ont des amis intimes, ont dans leur famille des couples mixtes. C'est tout ça qu'il faut voir. On ne peut pas se limiter uniquement à des incidents où des personnes ont été intolérantes pour dire le reste du Canada est entièrement plus tolérant et le Québec est entièrement intolérant. Donc effectivement, partout ça existe. On peut invectiver quelqu'un partout. Partout dans le Canada et partout dans le monde. Parce qu'il est différent.
Vraiment. Rachida Azdouz, est-ce que la différence de l'un vers l'autre, est-ce que cette différence n'est pas essentiellement un vecteur de crainte pour plusieurs? Nombre de gens vont aller vers l'autre parce qu'il est différent, mais dans plusieurs tranches de la société, la différence fait craindre parce qu'on ne la connaît pas et on a des porte-voix qui se servent effectivement de cette différence parce qu'ils ont un agenda politique.
Oui, absolument. Je pense que ce que vous dites, Raymond, est très important. C'est que quand on veut comprendre le phénomène de l'exclusion, la première chose qu'il faut faire, c'est de documenter, d'avoir des données quantitatives. Et ça, on a des statistiques. Statistique Canada documente régulièrement les incidents haineux et non seulement les incidents haineux, mais aussi le motif. Est-ce que c'est de l'homophobie? Est-ce que c'est du racisme? Est-ce que c'est à cause de la couleur? Est-ce que c'est à cause de la religion? Donc, le phénomène de l'exclusion et du rejet de l'autre existe et personne n'est à l'abri. Il y a aussi des gens qui sont rejetés. Vous parliez tout à l'heure des francophones quelque part au Canada qui peuvent aussi parfois être victimes de rejet. Donc, il faut le documenter, il faut avoir des données quantitatives. Et ensuite, il faut le qualifier. Pourquoi on rejette l'autre? Et des fois, effectivement, c'est de la peur. Et ça m'amène à quelque chose de très important que j'essaie d'étayer dans le livre, c'est toute la question du racisme et de la grille antiraciste. La grille d'analyse, c'est une grille d'analyse antiraciste et la grille décoloniale sont des grilles qui permettent de comprendre pourquoi l'autre nous rejette. D'accord ? Et l'autre peut nous rejeter parce qu'il nous déteste, parce qu'il a la haine de l'autre, parce qu'il est convaincu que l'autre est un être inférieur ou un être dangereux, là ça rejoint le populisme, qui nous menace, qui va nous enlever notre culture, nos traditions et qui va imposer les siennes. Donc ce populisme existe. Et ça, la grille d'analyse antiraciste et décoloniale permet de comprendre ce phénomène et de lutter contre ce phénomène. Mais la grille antiraciste et les grilles d'analyse antiraciste et décoloniale ne permettent pas de comprendre et de régler d'autres phénomènes, notamment celui de l'autre qui vous rejette parce qu'il n'est pas d'accord avec vous, parce qu'il n'a pas la même conception du monde que vous. Regardez dans tout ce débat sur la laïcité, il y a des gens qui ont tenu des propos carrément racistes et extrêmement dénigrants envers la religion. Mais il y a des personnes qui ont des arguments tout à fait solides. Quand on prend quelqu'un au Québec comme Guy Rocher, qui est un intellectuel quand même respectable et qui défend une laïcité qui ne veut pas de signes religieux chez les fonctionnaires, on ne peut pas dire que Guy Rocher a sorti des arguments racistes.
Absolument.
D'accord. Il a sorti des arguments qui sont intellectuellement défendables, qu'on peut très bien aussi contrer et contredire. On peut lui opposer d'autres arguments, mais on ne peut pas dire que cette personne, qui pourtant a défendu une position où il ne veut pas que les fonctionnaires portent des signes religieux, on ne peut pas lui reprocher à lui d'être de la même gang que les racistes de droite, populistes, qui se servent de la différence pour rejeter et dénigrer. Et ça, je pense qu'en ce moment, on n'a pas beaucoup d'espace pour ça.
Et on revit.
Oui, c'est comme si toute personne qui défendait la laïcité, quel que soit le degré de laïcité et quels que soient les arguments qu'elle invoque, tout de suite, on va dire qu'elle est raciste. Mmh. Et vice-versa. Une personne qui va dire, écoutez, moi, je ne porte pas de signe religieux, mais je n'ai pas de problème avec le fait qu'une infirmière qui me soigne en porte ou une enseignante qui enseigne à mon enfant en porte, elle va tout de suite être identifiée comme une religieuse intégriste qui veut reconfessionnaliser l'espace public. Donc, y a pas, alors qu'elle a peut-être des arguments qui sont tout à fait valables aussi.
Mais quand on... Excusez-moi. Oui, ben, Rachida, quand on retire l'aspect émotif du dialogue, on rentre là dans une conversation sensée et sage sur cette analyse, ce laboratoire du vivre ensemble, c'est ça? Et c'est là qu'on rejoint, et là je retourne à ce que vous avez écrit, le titre de ce texte que vous avez écrit, où vous utilisez une vieille expression d'ici pour amener le contemporain d'ici dans l'espace public.
Absolument.
C'était juste un
Moi, j'ajouterais que... C'est ce que...
Non, vas-y.
C'est, en fait, qu'est-ce que vous suggérez pour qu'on puisse vraiment améliorer, finalement, le dialogue, au lieu de s'étiqueter de part et d'autre, raciste, intégriste, pour que, finalement, on arrive... Qu'est-ce que vous suggérez comme...
Ben, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simulé des conversations entre les deux camps, entre ceux qui étaient pour le cours d'éducation à la sexualité, les contre, pour l'appropriation culturelle, contre, pour le projet de loi. C'est pas pour le projet de loi, mais c'est beaucoup plus pour une laïcité qui permet l'affichage de signes religieux aux fonctionnaires ou non. Parce que dans le fond, c'était ça l'enjeu du projet de loi 21. C'était pas de dire est-ce qu'on est pour les signes religieux dans les centres commerciaux. Là. C'était vraiment chez les fonctionnaires en position d'autorité. Donc, j'ai circonscrit pour éviter la pagaille et l'amalgame. Ce que je propose dans un premier temps, c'est d'écouter les arguments des uns et des autres. Donc, je permets, quand ils conversent entre eux, c'est sûr qu'ils ne sont pas très gentils les uns avec les autres. Hein. Je ne fais pas semblant de simuler un débat poli entre les deux. Ils se disent des choses, ils se prêtent des intentions l'un l'autre, ils sont sarcastiques, mais au moins, ils sortent leurs arguments. Ce qui n'est pas possible, parce que quand il y a eu des débats sur les trois sujets, c'est un débat télévisé ou à la radio, ça dure six minutes, et ça inclut la période de questions, et il y a souvent 3, 4, parfois 5 invités pour un débat de 10 minutes, où chacun a la possibilité de dire, d'intervenir 3 fois, et l'autre n'a pas le temps de lui répondre. Dans le fond, chacun arrive pour exposer son point de vue, il sait qu'il n'a pas le temps de répondre à l'autre, donc il vient passer son message. Ouais. Donc, ce n'est pas un vrai débat. C'est une juxtaposition.
Ça fait 16 minutes, là, et puis ils ont presque eu le temps de poser toutes leurs questions.
Non,
parce qu'ils n'ont pas eu le temps de lire le livre. Donc, ça aurait été plus facile pour eux. Mais ce n'est pas grave, parce que moi, ça me permet de présenter le livre et de présenter aussi mon intention pour que les gens comprennent aussi c'était quoi mon intention. Mon intention, c'était vraiment ça. Dire aucune de ces parties-là, aucun de ces camps n'a eu la possibilité d'exposer un point de vue jusqu'au bout.
De bien s'expliquer.
De bien s'expliquer. Soit il a eu l'occasion de le faire, mais tout seul, c'est-à-dire dans une chronique, dans un journal. Donc, il a parlé tout seul. Et les gens qui lui répondent, c'est les gens qui font des commentaires. Et souvent, ce n'est pas des commentaires très gentils. Okay? Ou c'est des commentaires très gentils et très complaisants. Okay? Alors là, quand il discute, il y a même des arguments que j'ai dû inventer en me mettant à la place de l'autre, dire qu'est-ce que j'aurais répondu si j'étais à sa place et qu'est-ce qu'on peut raisonnablement répondre à l'autre en gardant quand même le ton sarcastique parce que je peux pas faire semblant que les gens sont polis entre eux quand ils ne le sont pas, mais juste finir une conversation. Juste jusqu'au bout et permettre à chacun de sortir ses arguments, même quand son argument est choquant, mais l'autre ne l'arrête pas en lui disant « t'es raciste » ou « t'es fasciste » ou « t'es islamiste » ou « t'es idiot utile », etc. Donc, je permets à la conversation d'avoir lieu jusqu'au bout, même quand les gens ne sont pas toujours très polis les uns envers les autres. Tout ce que j'ai éliminé, c'est les arguments franchement fascistes. parce que ça n'a aucun intérêt. J'ai pris vraiment des arguments contradictoires, un peu, comment dire, musclés, là, pas gentils, mais j'ai enlevé les arguments fascistes. Et ensuite, ce que je propose, je simule dans un chapitre que j'ai appelé « Débattre », comment les mêmes arguments auraient pu être invoqués, mais sur un ton peut-être un peu plus poli et un peu plus constructif. Donc, c'est ce que je propose. Et je propose quelques repères. Quelles sont les conditions minimales pour permettre un débat, j'aime pas le mot débat serein, parce qu'un débat n'a pas à être
harmonieux.
Serein, surtout sur... Harmonieux, respectueux, oui. Ouais. Harmonieux, voilà, constructif, etc. Et donc, quelques conditions qui doivent être réunies et je répartis un peu les responsabilités. La responsabilité des médias, la responsabilité des j'utilise, par exemple, le débat sur l'appropriation culturelle parce que c'est là où, justement, toutes les conditions n'ont pas été réunies. Tout le monde s'est mis à vouloir se montrer plus fin que l'autre. Et à dire, moi j'ai compris, moi je suis gentille, et oui, effectivement, l'appropriation culturelle, c'est horrible, c'est affreux, et d'autres qui disaient, au contraire, c'est n'importe quoi, c'est de la bêtise. Donc, sur l'appropriation culturelle, les dirigeants, les responsables, surtout les responsables d'organismes culturels, certains d'entre eux ont été irresponsables, parce qu'ils ont pris des décisions très rapidement. Mais le débat sur l'appropriation culturelle n'est pas fini. Slav et Kanata n'ont fait que le lancer, mais il y a plein de choses qui ne sont pas claires sur, par exemple, la validation des œuvres. Qu'est-ce qu'on entend par valider une œuvre? Qui valide? Qui a l'autorité morale et la légitimité?
Parce qu'il ne faut pas tomber dans la censure, là, non plus.
Non, et la tutelle. Alors, quand on voit des décisions qui sont prises et des conditions qui sont imposées à des artistes et à des créateurs, ben, il faut se demander, est-ce qu'il y a eu consensus? Est-ce qu'il y a eu véritablement débat? Donc, dans le chapitre sur l'appropriation culturelle, quand je simule le débat est très musclé, très chaud, pas toujours très poli, mais je le fais exprès, d'une part parce que c'est comme ça que ça se passe dans la vie, et d'autre part, c'est pour dire, regardez, c'est pas fini, là, il y a des arguments là-dedans. Quand vous enlevez la colère et le sarcasme, quand vous éliminez tout ça et que vous regardez bien les arguments, il y a des arguments qui sont valables, des deux côtés. Les tenants de l'appropriation culturelle et ceux qui sont contre. Alors, avant de prendre des décisions importantes sur les subventions, il faut peut-être s'assurer qu'on a bien regardé, qu'on a bien analysé et qu'on a balayé les angles morts.
Ouais. Très bien.
Excellent.
Écoutez, c'est toujours un plaisir de lire vos livres parce qu'ils sont d'une simplicité, c'est clair. Puis je trouve que les jeux des arguments est toujours bien présenté et ça ne choque pas, ça réveille, en fait. C'est ça, je trouve ça vraiment très agréable de vous lire. Ouais. Merci beaucoup, Rachida. Je rappelle que votre livre, Pas de chicane dans ma cabane, seulement disponible le 18.
Et le lancement le 18 à la librairie Gallimard.
Très bien. Fantastique. Merci beaucoup, Rachida.
Merci, au revoir, Rachida. Merci à vous.
Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Douze, psychologue à l'Université du Québec à Montréal. Alors, écoutez, je vais le dire une fois, encore une fois, action!
Bon.
Yeah.
Ça y est, c'est le jeu des grosses boules. On rappelle que Maryse a 105 boules et que les autres ont 80 boules. 30 boules à perdre pour ce deuxième jeu. Voici, on a parlé un peu de populisme, parlons pas des fascistes, mais parlons des populistes. Très simple comme question. On en parle de tous les jours, des populistes. Hein. On a des exemples remarquables dans le monde de populistes. Pense à personne en particulier, moi. Alors, voici. Quelle est l'origine du mot populisme? S.A. On présente la question à l'antenne. Bon. C'est un choix de réponse. Un mot qui vient du latin et de l'époque du Sénat romain, au 1er siècle. Est-ce que le mot populiste est un mot populisme qui vient du grec, de la ville d'Athènes, au 5e siècle? Ou est-ce que c'est un mot qui vient de la Russie moderne au 20e siècle? Alors, on va parler avec notre russifologue
notre spécialiste de la langue.
Ouais.
SPQR à l'époque, Senatum Populusque Romane, c'est de la Rome antique.
C'est de la quoi?
Rome antique.
Ah bon, c'est
du latin de l'époque.
Je pensais que c'était romantique, votre affaire, mais en tout cas, c'est la Rome antique.
Ça peut.
Oui. Moi j'irais aussi avec Raymond, parce que je pense à l'expression Vox Populi.
Ah, Vox Populi.
Et voilà. Donc, j'irai avec A.
Ouais, mais l'origine, on s'entend que ça vient du mot population, populaire.
On s'entend
la racine, là, populous. C'est populous.
Ah, bon, okay.
Mais quelqu'un qui a utilisé populisme en termes de notion comme ça,
Vous pensez à la réponse B, peut-être?
Je vais dire C, tiens.
C'est-à-dire
on
C.
va toutes les essayer.
Donc, qui a répondu A? Nos deux oiseaux là-bas, d'accord?
Nos oiseaux.
Ils ont gagné. Bon.
Ils ont perdu.
Ah! Oh! C'était B.
C'est non? Pas B. Non, c'est malheureusement, c'est regardez, bon, un mot qui vient non, de la Russie moderne. Ben, vous avez raison sur, pour la question du radical. Oui, oui, vous appelez ça un
ben, juste racine. Vous
avez raison aussi.
Non, non, j'ai pas aucune raison.
Alors, ça signifie peuple ou... Ouais. C'est un radical, en fait, ce qu'ils ont. Ah, okay. C'est un radical latin.
Oui.
Latin.
Oui. Ben oui, c'est du latin.
Ben oui, c'est sûr.
Oui.
C'est vraiment tic.
Mais moi, je pense que ah, bon, ben alors. Au niveau de la
mais,
nuance.
C'est la première fois que c'est apparu sous la plume d'un écrivain, Grégoire Alechinsky, qui est un Russe qui a été obligé de s'exiler à Paris durant l'affaire de la Grande Révolution. 1912, pour la première fois, il a écrit populisme.
Ouais. D'ailleurs, il y avait beaucoup de
on
Russes
qui se passe en Russie, c'est du ouais. populisme.
OK. Le voilà. phénomène, les bolcheviks, c'est un du mot populisme. Pour le phénomène.
Voilà. Okay. D'accord. On a pas
sauf que l'origine du mot est bel et bien latine.
Et vox populi. Oh,
vous avez raison. Mais...
enfin bref.
Enfin bref, on est quand même les boules.
Ça ne me dérange pas d'en avoir perdu 5 ans.
Moi, j'ai 105, alors je tombe à combien, là?
Ben, vous tombez 32-30. 75, vous êtes à 75. Bon,
même, moi, j'ai 50.
Vous avez 50 et vous avez 80.
Non, oui, 80.
Okay.
Parce que j'ai gardé
mes 30 mois. C'est bien. Vous savez que toujours à l'émission de Tam Tam Canada, on vous présente à la fin de
le sujet de la semaine.
Ben, c'est-à-dire qu'en plus de pouvoir le regarder ou l'écouter, vous avez l'option de poursuivre
la lecture.
Voilà. Nous, à l'antenne, on ne peut pas tout lire, on peut seulement dire des choses. Alors, si vous voulez lire et écouter des entrevues de Radio-Canada International sur la question de la bonne entente interculturelle, et alors, je pense que c'est la vidéo. Attendez voir, hein, la vidéo numéro 39B68.
on dirait un local dans la tour de Radio-Canada.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'on est au niveau B.
Ouais. Ouais. Ben, c'est la prochaine vidéo. On va voir si c'est bien celle-là. La prochaine qui était au menu, c'est la 6 ou la 7 ou la 8 ou la 9.
Alors, là, il y a quelqu'un à la régie qui, ouais, qui te regarde avec des points d'interrogation dans les yeux.
Ah!
Non, ce n'est pas celle-là. Mais remarquez que celle-là est bien, on peut l'écouter. Non, non, allez-y. On peut, tout est possible à cette émission. C'est fait par Radio-Canada récemment.
D'origine marocaine, je suis au Québec depuis 2015 et je suis en deuxième année en éducation préscolaire, enseignement primaire.
Fatma El Abid, étudiante à l'Université de Montréal en enseignement primaire ou préscolaire. Je suis là depuis 2015 et je suis algérienne.
Inès Boutiche, originaire d'Algérie. Je suis arrivée ici au Québec en 2016. Je suis en deuxième année éducation préscolaire et enseignement primaire.
Elles enseignaient déjà dans leur pays d'origine. Pour travailler ici, elles ont dû reprendre leurs études. Un choix réfléchi pour améliorer leur sort. Mais le projet de loi 21 sur la laïcité est venu jeter un pavé dans la mare.
Comment vous prévoyez votre avenir si ce projet de loi devient loi?
Nous, l'enseignement, c'est une passion pour nous. C'est une vocation, donc c'était un choix. On a investi du temps, on a investi de l'argent. Donc c'est vraiment difficile pour nous. On ne voit pas notre avenir. Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Est-ce que je peux faire mon stage? Est-ce que je peux enseigner dans une école? C'est vraiment délicat.
Moi, j'étais sélectionnée comme travailleuse qualifiée. Ils m'ont expliqué que je peux travailler ici, au Québec. Il n'y aura aucun problème par rapport aux signes religieux.
Alors voilà, il y a une clause grand-père dans la loi 21 maintenant
tout
qui a été
fait.
Adoptée. Alors si vous aviez déjà, vous portiez déjà un foulard à l'école, vous étiez enseignante, la loi...
Hijab.
Voilà, un hijab. Ben, ça ne s'appliquera pas à vous. Mais les nouvelles enseignantes qui se joignent aux commissions scolaires, ben, dans leur cas, elles pourront plus porter le hijab. Ce qui crée finalement deux catégories d'enseignantes ou d'enseignants. C'est une histoire qui pourrait se retrouver évidemment en cours éventuellement. Mm-hmm. Les droits d'une personne sont indivisibles, je pense.
Sauf qu'ils ont utilisé la clause dérogatoire. Ouais. Ce qui veut dire que pour les 5 prochaines années, mm-hmm. techniquement, ça va rester comme ça.
Qu'est-ce qui arrive après 5 ans?
Ah ben là, c'est qui sera au...
Au pouvoir dans 5 ans.
Ouais, exactement. Ouais,
c'est une question qui a retenti, ça, comme on parlait québécois, là. Ça a rebondi dans les élections, la campagne électorale ces derniers jours. On a demandé aux différents chefs, est-ce que vous, au niveau fédéral, vous entendez contester cette loi québécoise qui, selon certains, violerait la Charte canadienne des droits et libertés? Mm-hmm. Et il y a eu des réponses différentes de la part des chefs de différents politique, voilà.
Parti politique, oui.
Non, je ne vais pas réécrire cette histoire, c'est pour la semaine prochaine, c'est sûr. Vidéo numéro 8, je vous l'ai promis un peu plus tôt, ce sont les articles qui accompagnent cette émission, cette semaine sur la page de Tam Tam Canada. Je pense qu'on va retrouver un reportage qui est fait d'abord par Didier Otti, barreau d'honneur pour les opposants au projet de loi 21. Je vous rappelle que c'est maintenant la loi 21. Le deuxième item, c'est de Raymond vous reconnaissez, mm-hmm. de la charte des valeurs du PQ à la loi sur la laïcité de la CAQ, est-ce une répétition du même film? Et puis ensuite, vous avez les immigrants francophones en baisse au Québec. Expulsion des immigrants, le débat s'incruste dans les élections québécoises. Ça, c'était il y a un an, pour rappeler un peu de contexte. Et puis aussi, je pense que c'est six articles en tout. On termine par la diminution de l'immigration. Va-t-elle aggraver la pénurie de travailleurs? Ben, s'il y en avait une, oui. Puis là, ben,
on sait... Il y a déjà une pénurie de travailleurs, parce qu'en ce moment, le Québec a le plus bas taux de chômage au pays. Ça ne s'était jamais vu depuis des années. Donc, on est en manque. On a besoin de gens qui viennent s'installer ici.
Voilà, avis donc aux intéressés, à ceux qui nous écouteraient dans le monde entier. Il est possible de postuler au ministère québécois, puis au ministère fédéral canadien aussi. Vous pouvez, c'est, l'immigration est une responsabilité différente que si on se trouve au Québec ou dans le reste du Canada.
Des ministères. Pour obtenir ce qu'on appelle le CSQ, le Certificat de sélection du Québec.
Bravo, merci beaucoup. Écoutez, on n'a pas terminé tout à fait. Il nous reste, il y a bien sûr l'image de la semaine, mais il reste action! Troisième et dernière fois.
Dernière question.
Voilà. Vous débrouillez très bien cette semaine. Personne n'est
à... J'ai hâte à la semaine prochaine.
Ouais, il y a juste Raymond qui va... Bravo, qui est proche.
Il va retrouver à zéro. Là,
non, il va remonter.
En général, c'est le champion. Hein.
Ouais.
Alors, 50 boules à perdre, Raymond. Et puis tous les autres. Voici la question numéro 3. Quel était en 2016 le taux de participation des néo-canadiens aux élections fédérales? Hein?
Vous l'avez cherché longtemps, celle-là. Hein?
Ben oui, c'est pas facile à trouver. J'ai trouvé des vieilles affaires.
Pas facile à répondre non plus.
Est-ce que c'était A, 7% plus élevé que le taux de participation des Canadiens de souche? Est-ce que c'était B, 7% moins élevé que le taux de participation des Canadiens de souche? Ou est-ce que le taux de participation des néo-Canadiens aux élections était exactement le même que les autres Canadiens?
Moi, j'irais avec A, 7% plus élevé.
Ah, 7% plus élevé.
Moi aussi.
Oui, mon Dieu.
7% moins élevé.
Bon, il y a division dans la cabane.
Mais pas de chicane.
C'est bon, c'est fantastique. Alors, ben, écoutez, vous allez bien vous entendre. La bonne réponse...
C'est...
Passez-vous.
Non, qu'est-ce que
c'est? Ah, c'est A.
C'est ce que c'est ça, c'est ça. Oui, je l'avais vu parce qu'en général, lorsque les gens obtiennent leur citoyenneté et qu'ils votent dans les 5 années après avoir obtenu leur citoyenneté, ils sont fiers d'être au pays et ils veulent se prononcer dans le débat public en votant.
Ben, il y a d'autres, dans d'autres nations, des fois, ils votent moins que la population de souche parce qu'ils craignent de s'exposer aux récriminations des voisins. Ils ne veulent pas. Mais là, au Canada, il semble qu'ils prennent part davantage. Et on le signalait dans la première question aussi, ils votent davantage présentement pour le Parti libéral du Canada. Ils sont plus enclins à voter pour avoir de meilleurs œils, voilà, pas de meilleures oreilles. La performance du président actuel, du premier ministre actuel. Ouais, premier ministre, président.
Et j'ai gagné.
Vous avez gagné?
Oui.
Combien de boules il reste?
80.
Oui, elle était à 80, mais là, vous avez augmenté. Moi, j'étais à 75.
Non, elle n'a pas perdu.
Ah, OK. Ouais.
On n'augmente jamais cette émission, sauf vous, aujourd'hui, 5 boules. Okay. Vous êtes à 75, 80 et...
Zéro.
Zéro. C'est ça. On est prêt pour la devinette pour la semaine, d'accord? Oui. Quelle est l'image de la semaine? Je ne peux répondre que par oui ou par non.
C'est notre fameuse vedette du tennis, Bianca.
Ah, ça aurait été un bon choix. Quel est son nom, Maryse?
Bianca Andreescu, elle est maintenant 5e joueuse de tennis au monde. Et qui elle a battu? Serena Williams.
Quelque chose, hein? C'était dimanche, l'an dernier, c'est ça?
Samedi. Les gars, c'est
dimanche.
Le dimanche,
c'était le dimanche.
Ah, d'accord. Samedi. Je t'occupe à...
Est-ce que c'est nord-américain?
Est-ce que c'est nord-américain? Attendez que je vois. Oui, c'est nord-américain.
Exclusivement
nord-américain.
Américain.
Une catastrophe naturelle.
Dorian.
Dorian, non. C'était, rappelez-vous, ça vous étiez peut-être pas là à l'émission de la semaine dernière, l'image de la semaine dernière, c'était relié à Dorian.
Okay.
Là, on a passé de l'autre côté, même si c'est passé au-dessus de la Nouvelle-Écosse en fin de semaine, c'est pas l'image de la semaine.
Est-ce que c'est canadien?
C'est très canadien.
Oui, est-ce que c'est dans l'Ouest canadien?
Non, c'est pas dans l'Ouest canadien.
Dans l'Est,
les Maritimes. C'est dans l'Est, c'est pas dans les Maritimes.
Québec?
Non, monsieur.
Terre-Neuve. C'est en Ontario.
En Ontario.
Oui, c'est ça.
Ah, l'université francophone?
On va présenter ça tout de suite parce qu'il nous reste 1 minute d'émission avant de perdre le satellite. Voici. Il n'y a pas de satellite, vous en faites pas, mais on va perdre quand même.
Ah ouais, votre camion, c'est ça.
C'est le camion qui est rentré sur le toit.
À Rivière des Français, oui.
C'est ça.
Ah, c'est ça.
Parti, le camion s'est mis à voler, puis il a été atterri subitement sur une maison.
Incroyable.
Les policiers disent que c'est la première fois qu'on voit ça. Je pense que c'est la première fois au monde. Alors,
il faudrait écrire un livre, pas de camion dans ma cabane.
Oui, il n'y a pas eu de blessés. Le propriétaire était dans le stationnement, il y avait 2 personnes dans le camion, pas eu de blessés, rien. Voilà, c'est tout pour cette semaine.
Bravo!
À la semaine prochaine.
Allez, au revoir.
Bye.